Chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi que de me retrouver une fois de plus devant vous. J'ai hésité quelque peu à prendre comme thème de ma causerie de ce soir « Révolution ou réformation » parce que, bien souvent, vous le savez, tel auditeur ou telle personne entendant parler d'une telle conférence peut se tromper dans l'interprétation du propos de celui qui fait la causerie. Et je ne voudrais pas ce soir qu'il y ait de malentendus. Et j'espère être assez clair pour que les malentendus ne surgissent pas. Si je parle de révolution, c'est en prenant ce mot, non pas en songeant à telle ou telle insurrection historique, mais en pensant à l'esprit de la révolution que je résumerai par cette devise qui a été courante, en particulier au moment de la Révolution française, « Ni Dieu, ni maître ». L'esprit de la Révolution, c'est l'esprit qui récuse, qui refuse toute vraie autorité. Et je dirais que, en cela, l'esprit de la Révolution est l'esprit de la réformation sont opposés, sont antinomiques. La devise révolutionnaire, c'est le rejet de l'autorité, ni Dieu, ni maître. Tandis que l'esprit de la réformation, c'est la reconnaissance de la seule autorité absolument légitime et qui ne devrait être contestée par personne, à savoir l'autorité du Créateur et du Rédempteur, l'autorité du Dieu vivant. Il y a donc antinomie, opposition entre l'esprit de la Révolution, tel que je viens de le définir, et l'esprit de la Réformation, tel que je viens aussi de le définir. Bien entendu, on a quelquefois fait de la Réformation la mère de la Révolution. Et d'aucuns, soit du côté protestant même, soit du côté catholique romain, ont vu dans la Révolution la fille de la Réformation. Or, je dirais qu'il n'y a aucun apparentement possible entre les deux. Or, nous sommes à un moment de l'histoire du monde où les hommes se trouvent de plus en plus insatisfaits des structures dans lesquelles ils vivent. Les hommes se trouve comme de plus en plus enfoncé dans des impasses et ne savent plus d'ailleurs comment sortir de ces impasses. Les hommes sont comme coincés dans des culs-de-sac. Alors, il y a ceux qui cherchent à échapper à cette situation en entrant dans une sorte d'évasion, que cette évasion soit celle de la drogue, dont on reparle de nouveau beaucoup en France, mais dont on parle dans beaucoup de pays aujourd'hui, que ce soit dans la pornographie, que ce soit même dans la folie. Je pense que la Suisse, qui est un pays réputé sage par excellence, ne connaît pas cette troisième forme de tentation. Je pense même que la seconde forme ne lui est pas aussi connue qu'en France. Mais enfin, disons que dans l'ensemble du monde occidental, la fuite par la drogue, la fuite par la pornographie et la fuite par la folie sont des réalités. Et il est même des professeurs d'université en France, je préfère ne pas dire leur nom ce soir ici, qui prônent la folie, comme il en est qui prônent la pornographie. Et c'est très grave. Vous savez que c'est d'ailleurs un professeur américain qui avait un professeur d'université aux États-Unis qui avait prôné la fuite par le LSD. Et il y a ces tentatives de fuite. Heureusement, c'est encore des tentatives de fuite minoritaires. Mais ce sont des tentatives de fuite qui, cependant, risquent de s'accroître. Et en ce moment, dans plusieurs pays occidentaux, cela va très loin. Mais enfin, mon propos ce soir n'est pas d'appuyer là-dessus. Je ne m'occupe pas tellement de ceux qui ont choisi la fuite, mais je dirais il y a ceux qui, au contraire, vont rechercher par quel principe et sur quel fondement il serait possible aux hommes de sortir des impasses dans lesquelles nous sommes enfoncés. Et c'est là que le choix apparaît. Et à mes yeux, ce choix est en train de devenir de plus en plus inéluctable. Révolution ou réformation. Le propre de l'esprit de la révolution, puisque c'est un esprit qui rejette l'autorité de Dieu, le propre de l'esprit de révolution, c'est d'être centré sur l'homme. Et au fond, il y a derrière l'esprit de la Révolution, l'esprit de la religion humaniste, en définissant par religion humaniste la religion du salut de l'homme par l'homme. C'est l'homme qui va sauver l'homme. Si l'homme est acculé dans des impasses tragiques, si l'homme voit tout à coup comme le terrain se dérober sous ses pieds, si l'homme se trouve même parfois comme acculé au désespoir, eh bien, il va falloir qu'il s'en sorte et il va s'en sortir. Or, toutes les révolutions qui se sont produites dans notre siècle, quelle que soit leur couleur, la révolution brune, la révolution rouge, la révolution noire, toutes les révolutions du XXe siècle ont abouti à des structures de société et à des structures politiques pires encore que les structures qu'elles voulaient remplacer. Parce que l'homme voulait en quelque sorte amener le ciel sur la terre, faire régner la justice sur la terre, en fait de ciel sur la terre, ces révolutions ont plutôt amené l'enfer. Et nous avons eu une révolution qui a complètement avorté en une dizaine d'années, finalement, en une douzaine d'années plus exactement, puisqu'elle a pris le pouvoir en 1933 et qu'elle s'est terminée en 1945, c'est la révolution nationale-socialiste. C'est la révolution du nazisme. Mais la révolution rouge que connaît encore l'URSS est toujours là, avec des désastres épouvantables, aussi bien dans l'ordre économique que dans l'ordre de la dignité humaine. Depuis l'œuvre de Solzhenitsyn, les communistes eux-mêmes, dans un pays comme la France, ne peuvent plus ignorer la réalité des goulags. Et le goulag, cet archipel des camps de concentration, existe toujours. Mais ça ne fait rien, il y a un mythe de la révolution qui demeure. Et en France, par exemple, surtout au moment où nous sommes à la veille d'avoir une élection présidentielle, les mêmes expressions reviennent, et elles sont très curieuses. Il faut changer de société. Sous-entendu, quand on aura changé de société, ça saillira. Et le changement de société n'est pas prôné par les seuls révolutionnaires et humanistes de gauche, mais aussi par les révolutionnaires et humanistes de droite. Autrement dit, l'expression « changer de société », vous l'entendrez dans la bouche d'un Georges Marchais, mais vous l'entendrez aussi dans la bouche d'un Chaban Delmas. Il faut changer de société, ou bien encore, il faut changer l'homme. Et alors il y a cette prétention que par une révolution politique, la société ayant changé et l'homme ayant changé, tout ira bien. Or, c'est cet esprit de la révolution que l'esprit de la réformation combat. L'esprit de la réformation dit que les maux de l'homme, les maux de la société tiennent à l'homme lui-même et tiennent très exactement à la révolte de l'homme contre Dieu et contre la loi de Dieu. Et qu'il n'y a pas de salut possible de l'homme par l'homme, même dans l'ordre temporel. Même dans l'ordre temporel, même dans l'ordre politique et social, il ne peut pas y avoir de salut parce que l'homme ne changera pas l'homme. Et même si les sociétés humaines changent, le drame humain dû au péché, dû à la révolte de l'homme contre Dieu, subsistera. La seule possibilité réelle d'un salut de l'homme, elle n'est pas dans l'esprit de la révolution, mais dans l'esprit de la réformation. Vous savez qu'il y a d'ailleurs un certain infantilisme dans l'esprit de la révolution et dans ceux qui tiennent à cet esprit. Vous savez que le propre de l'enfant, quand il veut quelque chose, c'est de l'avoir tout de suite. Pour lui, il y a une immédiateté qui doit se produire. Et lorsque l'enfant n'a pas tout de suite ce qu'il veut, alors il pique une colère, ou bien même cela se transforme en rage. Il lui faut tout de suite ce que vraiment il désire. Eh bien, au fond, les tenants de l'esprit de révolution sont encore dans un certain stade infantile. Ils s'imaginent que tout de suite, par une sorte de miracle opéré par l'homme lui-même, l'homme sera changé, la société sera changée, ce sera vraiment le règne de la justice. Et au fond, l'esprit de la révolution promet à l'homme une sorte de métamorphose qui sera comme immédiate. On fait la révolution et après, ce sont des lendemains qui chantent. On fait la révolution et ensuite tout va bien. Et c'est ce qui est grave, c'est que depuis déjà un bon nombre de décennies, on a eu des révolutions. Et des révolutions au nom de la justice. Des révolutions pour que l'homme soit changé, pour que la société soit changée. Or, si l'on fait le compte, on s'aperçoit que ces révolutions nous ont valu, ont valu au monde, ont valu à l'humanité un nombre de morts qui excède de beaucoup le nombre des morts des deux dernières effroyables guerres mondiales. On connaît maintenant des chiffres. On sait que ce sont des dizaines de millions de Russes, que ce sont des dizaines de millions de Chinois qui ont payé de leur vie les révolutions. Et on peut dire d'ailleurs que c'est à la révolution nationale-socialiste qu'on doit non seulement tous ceux qui sont morts dans des camps de concentration, mais on peut dire les millions, les quinzaines de millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Au fond, la révolution nous promet le paradis sur terre et nous procure l'enfer sur terre. Et les leçons de l'histoire ne servent à rien. Ce qui s'est passé au Cambodge est effroyable. Or, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, ce sont les Khmers rouges, maintenant chassés du Cambodge, par l'armée vietnamienne. Et croyez-moi, vivre au Vietnam aujourd'hui, ça n'est pas rose. Ce sont les Khmers rouges qui aujourd'hui, à nouveau, font appel à la conscience mondiale, puisqu'on parle de conscience mondiale, avec le dire, il faut que nous reprenions le pouvoir, alors qu'ils ont, par leur révolution même, supprimer plus de la moitié des Cambodgiens. Alors, nous sommes là, on nous promet toujours, faisons la révolution, l'homme sera changé, la société sera changée, et le règne de la justice va s'établir. Nous savons, nous qui sommes croyants en Jésus-Christ, que la seule société plus juste, mais qui sera loin d'être une société pleinement juste, la seule société plus juste qu'il peut y avoir, c'est une société selon l'esprit de la Réformation, parce que Dieu seul, par sa grâce, peut changer, vraiment changer, convertir, transformer des hommes et par là même peut valablement transformer et changer des sociétés humaines, aller dans un sens de progrès réel, encore qu'aucune société humaine ne parviendra jamais, fût-elle composée rien que de croyants chrétiens, en une société de pleine justice. Mais au moins, on pourrait progresser vers une société plus juste, à condition qu'il y ait davantage d'hommes changés. Et d'hommes changés, Dieu seul peut les faire. L'Esprit Saint seul peut les produire. Si bien que il nous faut répondre à l'esprit de la révolution, ni Dieu ni maître, par l'esprit de la réformation. Voilà quelle était la première partie de ma causerie, et la seconde partie sera consacrée à vous dire quelques mots de la parole de Dieu en tant que loi de Dieu. Je pense que les chrétiens de notre époque sont des chrétiens qui, d'une façon beaucoup trop unilatérale, met en avant l'Évangile et ne veulent connaître que l'Évangile. Bien sûr, je tiens à affirmer ici que c'est par l'Évangile, c'est-à-dire par la bonne nouvelle de ce que le Christ a accompli, que nous pouvons être sauvés. Et je ne voudrais pas que vous pensiez une seconde que je veux ce soir minimiser devant vous l'Évangile. Il n'y a de salut que par l'Évangile. C'est l'Évangile de la croix du Christ qui seul peut nous sauver. Mais je dirais, la Sainte Écriture de Dieu n'est pas seulement l'Évangile. Elle est aussi, elle est en même temps la loi de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important que les chrétiens replacent la loi avec sa sainteté, avec sa vérité, avec sa rigueur, mais aussi avec toute la lumière qu'elle apporte. Et il faudrait que dans la catéchèse chrétienne, dans la prédication chrétienne, à nouveau, avec l'Évangile, aux côtés de l'Évangile, il y ait la loi. Et cela, pourquoi ? C'est parce que l'Évangile seul peut nous convertir, peut nous changer. Mais la vie chrétienne ne consiste pas en la seule conversion. Je fais une comparaison qui, comme toutes les comparaisons, est boiteuse. Il est indispensable de connaître son alphabet. Et il faut commencer par apprendre son alphabet. Mais je dirais, bien triste serait l'homme qui en resterait à la seule connaissance de son alphabet. L'alphabet, c'est le commencement. L'alphabet, c'est le départ. Mais il faut poursuivre après. Et le chrétien, dans sa vie personnelle, le chrétien dans sa vie conjugale, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie civique, dans sa vie scientifique, le chrétien doit se reconnaître placé avec la loi de Dieu, sous les commandements de Dieu. Je pense à la prédication des prophètes. La prédication des prophètes, c'était une prédication de salut pour le peuple juif. Mais c'était un rappel au peuple juif des exigences de la loi de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, il a annoncé la bonne nouvelle. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Il a annoncé la bonne nouvelle aux aveugles. Il a annoncé la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient auprès de lui, qui étaient autour de lui. Mais en même temps, il leur rappelait la sainteté, la beauté, la nécessité de la loi de Dieu. Et dans le sermon sur la montagne, au fond, Jésus a développé devant ceux qui l'écoutaient quel était le contenu de la loi de Dieu. Quand Jésus a montré ce qu'impliquaient les commandements du décalogue, quand il a montré à quoi correspondait chaque parole du décalogue, quand Jésus a donné cet enseignement, c'était afin que ceux qui se convertissaient à lui et qui croyaient en lui, lui obéissent, écoutent à nouveau la loi de Dieu. Alors nous sommes à un moment où l'Église chrétienne a comme devoir d'annoncer l'Évangile, de le faire avec hardiesse, mais elle doit aussi annoncer la loi de Dieu. Parce que finalement, il n'y a pas d'autre fondement à la morale et il n'y a pas d'autre fondement au droit que la loi de Dieu. Vous savez que Bergson avait fait un livre intitulé « Les deux sources de la morale et de la religion ». Mais il y a un livre, peut-être, qui devrait être écrit aujourd'hui, « L'unique source de la morale et du droit ». Et l'unique source de la morale et du droit, c'est la loi de Dieu. Et parce que, entre autres choses, l'Église n'annonce plus cette loi de Dieu, ne proclame plus cette loi de Dieu. Dans l'Église elle-même, permettez-moi une expression quelque peu cavalière, la morale fout le camp. Mais les chrétiens aujourd'hui en sont à se demander quelquefois où se trouve la fidélité, où se trouve l'obéissance. Et le combat que doit mener l'Église est certes le combat de l'évangélisation. Il faut que l'Église évangélise, mais il faut en même temps que l'Église annonce aux hommes ce qu'est la vraie morale et ce qu'est le vrai droit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va définir le droit? Eh bien, ce qui va définir le droit, ou bien c'est l'opinion publique, ou bien c'est la toute-puissance de l'État. Et on voit se multiplier, par exemple, en ce qui concerne les questions sexuelles, des sortes d'enquêtes sur ce qui se vit ici ou là, comme si ce qui se vivait ici ou là allait pouvoir présenter une norme quelconque. Ce qui se vit n'a rien de normatif. Ce n'est pas ce que nous vivons qui peut nous dire comment vivre. Ce qui peut nous dire comment vivre, c'est peut-être justement d'abord ce que nous ne vivons pas, mais ce que Dieu nous dit qu'il faut vivre. C'est la loi de Dieu qui peut nous dire, et elle seule, ce que nous devons vivre. Mais c'est aussi Dieu qui est la source du droit. Ce n'est pas ni le peuple dans sa majorité, fût-elle quasi unanime, et ce n'est pas un gouvernement, fût-il le plus fier des gouvernements, qui peut définir le droit. Le droit est au-dessus de tout gouvernement et de toute opinion publique. C'est Dieu qui définit le droit. Et Dieu a défini le droit dans sa parole, comme Dieu a défini la morale dans sa parole. C'est la loi de Dieu qui est le fondement de la morale et du droit. Et donc, seul l'esprit de la réformation, c'est-à-dire l'esprit d'un retour à la parole de Dieu, peut réapprendre aux hommes, à commencer par les chrétiens, ce que c'est que la morale qu'ils ont à vivre et ce que c'est que le droit auxquels ils doivent se soumettre. Le fondement, la source de la morale et du droit, c'est la parole de Dieu. Et c'est précisément la parole de Dieu en tant que loi de Dieu. D'ailleurs, sans loi de Dieu, il n'y a pas d'évangile. Qu'est-ce qu'annonçait l'évangile? C'est annoncer à des pécheurs où se trouve leur salut. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pécheur? C'est quelqu'un qui transgresse la loi de Dieu. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de salut. Et quand un chrétien est converti, quand il est sauvé par Jésus-Christ, c'est en vue d'une nouvelle obéissance à la loi de Dieu. C'est en vue d'un service de la loi de Dieu. Aujourd'hui, combien de chrétiens disent qu'ils croient en Jésus-Christ, veulent servir Jésus-Christ, Mais chose curieuse, ils veulent définir eux-mêmes ce qu'est le service de Jésus-Christ. Or, ce n'est pas aux chrétiens de définir quel doit être leur service de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui définit le service qu'il attend de ceux qui croient en lui. Et là encore, c'est la loi du Seigneur, c'est la loi de Dieu qui doit être rétablie à sa place. Croyez-moi, la prédication de l'Évangile est indispensable, mais la prédication de la loi est tout aussi indispensable. Or, nul ne veut aujourd'hui, ou très peu veulent encore aujourd'hui, dans l'Église, écouter l'Écriture sainte en tant que loi. Vous pouvez faire une petite expérience, c'est de reprendre votre Bible et d'essayer de supprimer de votre Bible tout ce qui s'exprime en directive, en ordonnance, en commandement du Seigneur. Il ne vous restera pas grand-chose, croyez-moi. Si bien qu'on peut dire que si certains modernistes déchirent de la Bible toutes les pages qu'ils veulent définir comme inauthentiques, bien des chrétiens déchirent tout autant de pages de leur Bible en refusant d'y écouter la loi de Dieu. On peut être très évangélique et ressembler étrangement au plus moderniste des modernistes. Or, je pense qu'aujourd'hui, nous devons reprendre au sérieux l'Écriture sainte en tant que loi sainte, juste et bonne de Dieu. D'aucuns disent parfois, « Mais saint Paul a écrit, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. » Ça me fait penser à Agricola, au temps de la Réforme, et Luther a dû s'opposer à lui, qui s'écriait « Il faut pendre Moïse ». Il voulait dire « Il faut balayer la loi ». Mais attention, quand saint Paul dit « Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce », ce que saint Paul veut dire, et tout le contexte le montre bien, c'est que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Voilà, nous ne sommes plus sous la loi qui nous condamnait parce que nous trouvons notre justification et notre salut en Jésus-Christ. Mais s'il s'agit d'obéir, nous sommes toujours sous la loi. Et nous serons toujours sous la loi. Et c'est la loi du Seigneur seule qui peut nous apprendre et nous dire ce que nous avons à être. Mais non seulement ce que nous avons à être dans notre moi personnel, ce que nous avons à être dans notre vie conjugale, ce que nous avons à être dans notre vie familiale, ce que nous avons à être dans notre vie professionnelle, ce que nous avons à être dans notre vie civique. Et là, nous avons une parole de l'Évangile dont je ferai en terminant un petit commentaire. Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Oui, en effet, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Mais on peut très bien servir deux maîtres successivement. Par exemple, je peux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, le dimanche matin. Ça va durer 2 heures, ça va durer 3 heures. Ah, je ne sers pas deux maîtres, je ne sers que Dieu, pendant ces 3 heures-là. Mais alors, tout le reste du temps, je peux avoir d'autres maîtres. Je peux avoir l'argent. Je peux avoir un parti politique, je peux avoir ceci, je peux avoir cela. En effet, on pourrait dire que, aux yeux de plusieurs, Jésus s'est trompé quand il a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Il aurait dû préciser « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Mais on peut très bien servir plusieurs maîtres successivement. Alors le problème est là pour nous, chrétiens. Quand nous disons « Jésus est Seigneur », Jésus est Seigneur. Est-ce que nous voulons dire que Jésus n'est Seigneur que dans ce domaine-ci de la vie, dans le domaine de ma piété, dans le domaine, disons, de mon fort intérieur? Ou est-ce que il faut entendre cette parole « Jésus est Seigneur » dans son sens plein? Jésus est Seigneur sur mon cœur, sur mon fort intérieur. Oui, mais il est Seigneur, il doit être Seigneur, il veut être Seigneur sur toute mon existence. Oui, mais alors, si Jésus est Seigneur sous toute mon existence, comment s'exerce cette seigneurie de Jésus-Christ? Est-ce que c'est moi qui vais voir comment je puis m'arranger pour servir ce Seigneur? Mais alors, est-ce que ça voudrait dire que toutes les paroles que Jésus a dites, toutes les paroles du Christ, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, est-ce que ce seraient des paroles à mettre de côté? Je ne sais pas si mon ami Jean-Marc Doma était au culte dimanche dernier dans notre église. Oui, il y était. Alors, dimanche dernier dans notre église, c'était assez extraordinaire. Le prédicateur avait pris comme sujet dans le sermon sur la montagne, dans le chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu, cette parole du Christ, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Celui qui enseignera, fût-ce sur un point de détail, à désobéir à la loi, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et au contraire, celui qui enseignera à écouter toute la loi, à recevoir toute la loi, jusqu'au moindre trait de lettre, jusqu'au moindre accent, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » J'avoue que quand j'ai entendu ce texte, je me suis réjoui. Je me suis dit, enfin, voilà un pasteur qui va nous dire qu'il faut obéir à la loi de Dieu. Malheur de malheur. Il a dit tout de suite, il faut faire bien attention. Il faut faire bien attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut obéir littéralement à la loi de Dieu. Il faut obéir illittéralement à la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut obéir à la loi de Dieu sans tenir compte de ce que Dieu a dit. Il faut obéir aux commandements de Dieu, mais en évitant de les prendre au sérieux. C'est ça que ça revenait à dire. Alors j'ai été tout heureux quand il a lu son texte, et j'ai été catastrophé quand il a fait sa prédication. Parce que je me suis dit, mais alors ça ne va pas. Au contraire, Jésus insiste qu'il ne tombera pas de la loi un seul trait de lettre. Que le ciel et la terre passeront, mais il ne passera pas un seul trait de lettre de la loi. Que ce que Dieu a commandé, a ordonné, a voulu, devait être obéi. Voilà ce que Jésus dit dans ce texte, clairement, nettement. Et voilà que, aussitôt, on va prendre la tangente. Devant la loi de Dieu, il ne nous faut pas prendre la tangente. Même lorsque cette loi de Dieu nous accuse. Même lorsque cette loi de Dieu nous fait trembler, même lorsque cette loi de Dieu vient jusqu'au dedans de nous, jusqu'à sembler diviser les jointures de ce qui est le plus intérieur au dedans de nous. Il faut la recevoir alors comme un reproche que Dieu notre Père nous fait avec toute sa tendresse. Alors, il faut, et c'est là ma conclusion, avoir en notre siècle, non pas l'esprit de révolution, ni Dieu, ni maître, pas de loi, pas d'autorité, mais avoir au contraire l'esprit de la Réformation. Et l'esprit de la Réformation, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous dit, tu ne peux progresser comme enfant de Dieu dans la sanctification. Tu ne peux avancer dans ton fort intérieur et tu ne peux avancer dans ta vie sociale ou familiale ou politique et sociale. Tu ne peux avancer dans aucun domaine de l'existence si tu ne prends vraiment à cœur ce que Dieu ordonne, ce que Dieu veut, ce que Dieu exige. Et croyez-moi, le jour où l'on a un christianisme sans exigence, on n'a plus de vrai christianisme. Et l'exigence, c'est peut-être un des mots à retrouver aujourd'hui. Nous devons être vis-à-vis de nous-mêmes des chrétiens exigeants. Et si nous sommes des chrétiens exigeants, nous serons du même coup des chrétiens repentants. Et si nous sommes des chrétiens repentants, nous serons du même coup des chrétiens brillants et même des chrétiens mendiants, parce que nous en appellerons à Dieu pour qu'il nous aide, nous qui sommes en nous-mêmes de pauvres pécheurs, à devenir conformes à l'image de son Fils. Nous disons non à l'esprit de la Révolution et nous devons acquiescer humblement, fidèlement et obstinément à l'esprit de la Réformation.